Hein? Voilà, l'enregistrement est parti. Alors, Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Srila Prabhupada ki
Oui.
jai. Alors, on va commencer ça. Ah ben, ça va être à ton tour de lire.
C'est moi le résidu ce soir.
Ouais, c'est toi le résidu. Voilà, on a Virginie maintenant.
La maîtrise de nos paroles. Il s'agit tout d'abord de maîtriser nos paroles. Chacun possède le pouvoir de parler dont il se hâte d'user dès que se présente l'occasion. Que nos dires ne se rapportent pas à la conscience de Krishna et mille sottises sortiront alors de notre bouche, Le crapaud des champs s'exprime en coassant. De même, tout homme qui a une langue veut parler, puis pour dire des inepties. Mais par ses cris, le crapaud ne fait que convier le serpent. S'il te plaît, viens me manger. Bien qu'il appelle ainsi sa propre mort, rien ne peut l'empêcher de poursuivre son tapage. Les paroles des matérialistes et des philosophes impersonnalistes sont semblables au coassement de ces crapauds. Ils profèrent sans cesse des inepties et invitent donc la mort à les emporter. Maîtriser nos paroles, cependant, ne signifie pas s'imposer le silence, mona, comme le croient les philosophes impersonnalistes. La pratique du silence peut apporter une aide temporaire, mais se traduira finalement par un échec. Pour réaliser la maîtrise de la parole telle que l'entend Srila Rupa Goswami, il faut plutôt adopter la voie positive de la Krishna Katha. Cette voie consiste à utiliser nos paroles pour la glorification du Seigneur suprême, Sri Krishna, et à se servir de notre langue pour glorifier son nom, ses traits personnels, ses qualités et ses divertissements. Le prédicateur des gloires de Krishna se situe toujours hors d'atteinte des serres de la mort. Voilà ce que signifie résister aux tentations de la parole.
Oui. On continue.
3.1.
Ouais.
Il s'agit tout d'abord de maîtriser nos paroles. Quiconque considère pratiquer sérieusement la conscience de Krishna se doit de devenir parfaitement introspectif. Tôt ou tard, c'est une décision qu'il devrait envisager. Qu'est-ce que l'introspection? D'après Larousse en ligne, du latin introspicere, regarder à l'intérieur. Observation méthodique par le sujet lui-même de ses états de conscience et de sa vie intérieure. L'observation intérieure peut se heurter aux états d'âme liés au mental. Genre, aujourd'hui, je me sens comme ceci, aujourd'hui, je me sens comme cela. J'ai décidé cela. Les fonctions du mental sont penser, sentir et vouloir. Tant que l'introspection ne va pas plus loin, on ne progressera pas tangiblement vers le niveau spirituel.
Est-ce qu'il y
La
a des
Bhagavad.
questions? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Hare Krishna, Virginie.
Hare Krishna, excusez-moi, j'avais coupé le son. Hare Krishna. J'avais un petit
Allez.
retard, excusez-moi.
Ok,
Justement, j'étais en train de tout reprendre le défilé de la lecture pour rattraper.
OK. Alors,
C'est le sens le plus difficile à maîtriser, en fait, la langue, parce que je crois on avait déjà vu ça dans un cours précédent.
oui, et ça va être repris dans les prochaines lectures qui s'en viennent dans les pages à venir. Et c'est Srila Bhaktivinoda Thakur dans une prière qu'il a composée, qu'on se doit de réciter avant chaque fois qu'on prend le prasadam, la nourriture offerte à Krishna. Alors là-dedans, il dit, parmi les sens, le sens le plus vorace et le plus difficile à contrôler, c'est la langue. Alors, par contre, si on arrive à maîtriser la langue, les autres sens vont être maîtrisés. Alors, pour maîtriser la langue, il n'y a pas 36 000 façons, là. C'est que la langue veut parler, mais il faut lui faire parler de Krishna. À ce moment-là, il y a une maîtrise. Et la langue veut goûter, mais elle veut goûter à toutes sortes de choses, la langue. Alors, on a juste à se promener, mettons, dans des magasins où ils vendent toutes sortes de choses et où ils préparent des buffets sur place avec des repas disponibles pour la clientèle. Et il y a toutes sortes de choses. Et la plupart là-dedans ne conviennent pas à des dévots de Krishna. Alors la langue, c'est quelque chose, disons, de très puissant dans la vie de personnes qui ne sont pas conscientes de Krishna. La langue les domine, en fait. Alors, ils vont parler toutes sortes de choses. Ils vont, comment on peut dire, comme l'expression française, ils vont s'éclater. Et ça vaut ce que ça vaut, ces genres d'éclatement-là. Alors, c'est dit ici, les fonctions du mental sont penser, sentir et vouloir. Tant que l'introspection ne va pas plus loin, on ne progressera pas tangiblement vers le niveau spirituel. Alors, qu'est-ce qui est au-delà de penser, sentir et vouloir? La question est posée.
L'intelligence.
Pas vraiment.
OK.
L'intelligence est supposée être supérieure au mental. Ça, c'est dans Bhagavad Gita. Mais cependant, dans la même Bhagavad Gita, c'est dit que parfois les demandes du mental sont tellement puissantes qu'elles outrepassent l'intelligence. Alors ça, c'est dans la Bhagavad Gita aussi. Mais qu'est-ce qui est plus fort que le mental?
L'âme.
L'âme, oui, mais qui est dominée par le mental, c'est fort
Purifier.
possible. Mais qu'est-ce qui est plus fort que le mental?
L'énergie matérielle.
Il y a ça aussi, mais qu'est-ce qui est plus fort que l'énergie matérielle?
Le conditionnement, les habitudes créées.
Ça, c'est la nature matérielle. Mais qu'est-ce qui est plus
L'énergie
fort?
spirituelle,
Qu'est-ce qui est plus fort que la nature matérielle?
la nature spirituelle.
Ah ben, oui.
Krishna, la
Non?
conscience de
Ah,
Krishna.
regardons ça, c'est Krishna.
Ouais.
Ok, ben oui, mais je voulais le dire au départ, mais ça me paraissait trop évident en fait.
C'est Krishna qui est plus fort que le mental. C'est Krishna qui est plus fort que n'importe quoi. Et pour maîtriser le mental, il faut que le mental soit absorbé en Krishna. Voilà,
Hare
quelqu'un.
Krishna, désolé du retard.
Ah, pas de problème. Alors, bienvenue. Rebienvenue.
Merci.
Alors, c'est ça. Alors, c'est dit ici, tant que l'introspection ne va pas plus loin que les activités de penser, sentir et vouloir, on ne progressera pas tangiblement vers le niveau spirituel. Alors, qu'est-ce qu'il y a au niveau spirituel qui fait que c'est au-delà de penser, sentir et vouloir?
conscience de Krishna, c'est de l'aimer.
Oui,
Lui
encore là.
plaire, le servir.
Ah, ah. Encore là, c'est Krishna. C'est Krishna. Et les fonctions du mental, penser, sentir et vouloir peuvent être reliées à Krishna. T'sais, on ne peut pas ne jamais penser, ne jamais sentir et ne jamais vouloir. Comme les impersonnalistes voudraient que ça se passe comme ça, là. Que faire le vide. Vous allez dans une maison de yoga, puis on vous fait payer pour que vous entendiez la philosophie miracle de l'impersonnalisme, à savoir, vous avez des problèmes? Ben, ne pensez plus. Les problèmes vont être réglés, vous n'avez pas besoin d'y penser. Entre-temps, pensez à ouvrir votre portefeuille, puis on va se servir un petit peu. Et ça, c'est, comment dire, c'est de la supercherie. Et c'est du rêve, c'est du rêve de l'impossible. C'est mission impossible. Alors, il faut mettre, donc, aussi on dit, là, l'observation intérieure peut se heurter aux états d'âme liés au mental. Genre, aujourd'hui, je me sens comme ci, je me sens comme ça, j'ai décidé ci, j'ai décidé ça. Mais tout ça, c'est le mental. Alors, il faut aller plus loin que ça. Et ça commence comment? Comme on vient de dire, ça commence avec Krishna. Mais Krishna, sous la forme de...
L'offrande.
Sous la forme de son saint nom, sous la forme des saints noms de Krishna. Alors, si on veut être conscient de Krishna, si on veut avoir la certitude, parce qu'on veut être conscient de Krishna, sinon on ne se dirait pas dévot de Krishna, mais on veut avoir la certitude qu'on est conscient de Krishna. Alors, comment on va avoir cette certitude d'être conscient de Krishna? Qu'est-ce qui nous certifie, bien qu'il n'y a pas de certification en soi, mais qui nous prouve qu'on est conscient de Krishna? Si je peux m'exprimer comme ça.
Lorsqu'on a le désir de chanter les cinq noms de Krishna.
Exactement. Lorsqu'on chante les saints noms de Krishna, ça peut pas être plus simple que ça, et ça peut pas être moins que ça. C'est de chanter les saints noms de Krishna. Et comme Prabhupada a expliqué déjà, lorsqu'on chante avec Krishna, on s'associe avec Dieu, la personne suprême. Alors, c'est notre façon, en ce monde matériel, de s'associer avec Krishna par les chants, le chant de ses saints noms. Alors, comme le Seigneur Chaitanya dit, oh mon cher Seigneur, vous avez rendu ça tellement facile de vous approcher par le chant de vos saints noms. Vous avez des saints noms à l'infini. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Mais malheureusement, je suis très infortuné. Je n'ai pas d'attirance, je n'ai pas d'attraction pour ces saints noms. Alors, il faut se forcer un peu. Il faut pratiquer à chanter les saints noms. Puis à un moment donné, ça va devenir plus instinctif de se rappeler de chanter les saints noms de Krishna. Alors, des fois, la vie est faite d'une certaine façon que on peut être très surpris par des événements matériels que la vie nous oblige, par un concours de circonstances, de passer à travers. Comme par exemple un accident de voiture. Alors, vous pouvez être blessé, vous pouvez même quitter votre corps, mais disons qu'on ne parlera pas de quitter le corps, mais juste subir un accident puis s'en sortir. Là, on peut se poser la question, est-ce que je pensais à Krishna quand c'est arrivé? Et là, si la réponse est non, là, on a quelque chose à faire. C'est de devenir plus déterminé que jamais à se rappeler de Krishna. Et pour se rappeler de Krishna, il n'y a pas 36 000 façons. C'est le chant des saints noms. Alors, lorsqu'il y a un accident, mettons, une circonstance qui nous prend à l'improviste, mais qu'on sait qu'on doit penser à Krishna de toute façon, c'est le chant des saints noms qui va faire la différence. Alors, si on chante le saint nom, on est protégé par Krishna. On est, comment on peut dire, c'est ça. Il y a pas d'autre explication que ça. Notre conscience est protégée par le saint nom de Krishna. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
En fait, par le chant des saints noms, on devient à ce moment-là habité par Krishna. Le temps, on est en communion avec lui le temps qu'on fait notre chant.
Oui. Et le chant des saints noms est puissant que même quelqu'un qui chante avec inattention ou qui chante pour se moquer des saints noms est en contact avec Krishna, pareil. Il va avoir un bénéfice spirituel. Mais c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est de chanter les saints noms d'une façon autant que possible, sans offense. C'est-à-dire chanter avec attention, avoir un style de vie qui est affranchi d'activités pécheresses et puis s'absorber dans le chant. C'est chanter sans offense. Alors, on peut pas non plus jouer à la roulette russe avec les saints noms, dans le sens que je prends une chance, je tourne la roulette, puis j'espère, donc quand c'est le truc matériel, c'est qu'on espère ne pas tomber sur une balle. Alors, chanter les saints noms, c'est pas de jouer à la roulette que là où ça va s'arrêter, ça va être le saint nom parfait. C'est pas comme ça, là. Ça demande de la pratique. Et puis, comme la nature même du service de dévotion, on pose la question, là. Est-ce que c'est une activité temporaire ou ce n'est pas temporaire, le service de dévotion?
Ce n'est pas temporaire. C'est permanent.
Oui, c'est ça. C'est de nature permanente. En d'autres mots, si on commence un jour le service de dévotion, ça devrait être pour toujours. Alors évidemment, la Bhagavad Gita aussi explique que quelqu'un va commencer sur la voie du yoga, puis il peut s'arrêter, dévier à gauche et à droite. À un moment donné, il va revenir, parce que Krishna le dit, il va, dans une autre circonstance, il va être attiré par les principes du yoga, il va reprendre là où il a laissé dans une vie antérieure. Mais le principe, c'est, autant que possible, si on commence un jour, ça devrait être pour ne jamais s'arrêter. Parce que Krishna est quoi? La vérité absolue. La vérité qui ne change jamais, la connaissance, la félicité, l'éternité. Et c'est ça que l'on cherche. Notre vrai moi, notre âme spirituelle, cherche justement l'éternité, la connaissance, la félicité. Et ça, on peut l'avoir dans le service de dévotion. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? OK, alors on va continuer. On est rendu à la page 40, ligne 12. Alors, Ok, je reviens quand même sur le premier paragraphe où on décrit l'introspection. Comme c'est dit ici, le dictionnaire Larousse, il dit, donne une définition du latin introspicere, regarder à l'intérieur, observation méthodique par le sujet lui-même de ses états de conscience et de sa vie intérieure. Ben, si quelqu'un se dit un dévot, est-ce qu'il ne faut pas qu'il arrive à ça?
Oui, il
Il
faut faire
faut
une
qu'il...
analyse de ce qu'on fait. Oui,
Totalement. Totalement.
exactement. Il faut qu'il arrive à ça. C'est simplement comme ça, parce que tu chantes Hare Krishna, mettons, d'une façon extérieure, que le toi-même tu peux l'entendre et d'autres personnes peuvent entendre le chant des saints noms. Mais c'est à l'intérieur aussi que tu chantes.
Mais oui.
Alors, par exemple, tous les jours, tous les jours, toutes les nuits, si on peut dire, on dort. Et durant notre sommeil, comme Prabhupada dit, durant notre sommeil, les pensées qu'on va avoir durant le sommeil sont la réflexion de ce que nous pensons pendant le jour. Alors, si pendant le jour, on chante Hare Krishna, on a une pratique régulière de chanter les saints noms, on a un certain attachement à chanter les saints noms, alors même durant nos rêves, on va encore chanter. Ça, c'est la grâce de Krishna. Est-ce que ça vous arrive, vous autres, de chanter pendant que vous dormez?
Le matin au réveil, ça m'arrive des fois.
Oui.
Ouais.
À bord de ça.
Moi, ça m'est arrivé.
Pardon?
Moi, ça m'est arrivé, mais c'est rare. Une ou deux fois, c'est arrivé que je chantais dans la nuit, j'en revenais pas, je me suis réveillé. Waouh! C'était comme, j'ai dû faire quelque chose de bon toute la journée pour arriver là.
Mais je peux vous garantir que si vous chantez, disons, bien Hare Krishna, pendant que vous allez dormir, vous allez encore chanter. Ça va arriver. Pas nécessairement toutes les nuits ou tous les soirs que là, le lendemain, vous levez puis vous vous rappelez que vous avez chanté, mais c'est sûr que vous allez chanter à un moment donné. Ça peut pas faire autrement. Ça, c'est mon humble opinion. Et aussi, ce qui peut arriver, c'est que si vous êtes quelqu'un qui aime prêcher, alors qu'on a parlé ici dans ce qu'on vient de lire aujourd'hui, là, prédicateur, ce mot-là est venu. En tout cas,
Oui.
quelqu'un est prédicateur. Alors, même dans ses rêves, il va prêcher. Il va avoir quelqu'un à qui prêcher, même dans ses rêves. Je me souviens une fois, c'est une anecdote personnelle. J'étais en France et il a fallu que je sois anesthésié parce qu'il y avait une blessure. Et pendant tout le long de l'opération, j'étais en train de prêcher, mais prêcher à haute voix. Alors, je sais pas qu'est-ce que les gens ont pensé, mais moi, j'étais into it, comme on dit. Et
Ah, c'est
puis,
fou.
that's all. J'étais en Sankirtan. On a eu un accident de voiture. Et je pense que c'était pour le poignet, parce que j'ai eu une blessure au poignet. Donc, il a fallu qu'il fasse des points de suture. Et je sais que ça s'est arrivé. Et moi, ça faisait mon affaire.
Ah, c'est bien.
J'étais vraiment into it. Et c'est comme genre qu'il y a des soi-disant non-dévots à côté. Ça faisait pas de différence. Et je m'en suis aperçu à un moment donné avec l'anesthésie qui commençait à perdre son effet. Et puis, c'est ça. C'est la grâce de Krishna, ça. De penser à Krishna même pendant qu'on est en état de sommeil, ou si la grâce de Krishna peut aller jusqu'au point que même si on est dans un état d'inconscience, on pense à Krishna pareil. Et ça, dans le livre de Krishna, Prabhupada, il écrit un passage qui dit que le pur dévot de Krishna, et là, je dis pas ça pour me faire passer pour un pur dévot, là. Je dis juste qu'est-ce que Prabhupada a écrit. Que le pur dévot transcende les états de conscience, disons, d'éveil, de sommeil et d'inconscience. Le pur dévot transcende ça, parce que sa conscience est avec Krishna. Alors, c'est pour ça que je dis, si la grâce de Krishna permet de, à ce moment-là, c'est merveilleux. D'être conscient de Krishna dans les états de conscience qui sont des états conditionnés par les gunas, par la nature matérielle. Et ça, c'est une grâce de Krishna, ça. Alors, c'est ça. Parce que, justement, le principe de base de la conscience de Krishna, c'est de toujours se rappeler de Krishna et ne jamais l'oublier. Ça, c'est la règle d'or de la conscience de Krishna. En d'autres mots, débrouillez-vous comme vous voudrez, mais n'oubliez pas Krishna. Toujours se rappeler de Krishna. Alors, parfois, par exemple, donnons un exemple. Mettons, tu te retrouves à l'hôpital, dans la salle d'attente, avec, je sais pas, moi, 30, 40, 50 personnes qui sont dans la salle d'attente aussi, qui attendent leur tour. Et toi, t'es pas mieux qu'un autre. Il y a personne qui va te faire une faveur. Oh, monsieur, vous êtes dévot de Krishna, veuillez passer avant tout le monde. Ça arrivera jamais. Alors, t'attends ton tour. T'es un numéro comme n'importe qui. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chanter avec Krishna, puis tout le monde va trouver ça bizarre. Ils vont se demander, c'est quoi ce numéro-là? Non, tu vas chanter dans ton fort intérieur parce que c'est ça, la conscience de Krishna, c'est que tu veux penser à Krishna. Tu veux toujours te rappeler de Krishna. Et puis, ça fait plaisir de se rappeler Krishna en chantant dans le fort intérieur, selon tant de circonstances. Et c'est ça. Alors, on parle de ça ici aujourd'hui, là. C'est un plaisir, ça, de penser à Krishna, peu importe qu'est-ce qui arrive. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Alors, oui.
Dans une salle d'attente, il y a beaucoup de monde.
Oui.
Puis c'est très facile de prêcher au voisin ou à l'autre. On commence par une conversation, puis toutes les portes, toutes les routes nous amènent à Krishna, parler de ça. La douleur, comment arrêter la douleur.
Ouais, c'est une façon de, disons, de tirer son épingle du jeu,
Ça a coupé.
dans des circonstances comme ça. Mais supposons qu'un dévot préfère ne pas faire de vagues. À ce moment-là, il faut qu'il chante à l'intérieur de lui-même, dans son fort intérieur. Mais c'est pas tout le monde, c'est pas tous les dévots qui vont créer une occasion de prêcher. Ça, c'est, disons, si tu prends des dévots qui font ça à journée longue, là, des dévots de Sankirtan, les autres sont intuits, eux autres, là. Eux autres, c'est la moindre petite occasion, les autres sont au front, là. Alors, ils vont profiter de n'importe quoi pour parler de Krishna. Mais pour un dévot qui, disons qu'on pourrait dire, qui est assimilé Plus souvent qu'autrement, c'est pas évident, non? Parce que c'est pas le même mood qu'un dévot qui est vraiment si on peut dire, je dirais même un mode de prédication agressif ou opportuniste. Pas tout le monde que ça, là. Et c'est pas à toutes les époques de la vie non plus que ça se passe comme ça. Si tu es jeune, le plus jeune tu es pour ça, le mieux c'est. Parce que le monde va accepter. Ah, c'est un petit jeune. Même un enfant est capable de prêcher. Il y avait un couple de dévots à Londres. Peut-être vous les connaissez. Shamsundar et Malati. Parmi les premiers dévots du mouvement, ils étaient à Londres, ils ont une petite fille qui s'appelait Sarasvati. Cette petite fille-là a grandi parmi les dévots. Alors, elle a entendu je sais pas combien de fois au sujet de Krishna. Et elle, quand elle prêchait à sa façon. Elle avait 2-3 ans, la petite. Puis elle venait voir le monde, puis elle disait, « Krishna is the supreme personality of Godhead. » Voilà la ligne. Elle a répété ça à qui veut bien l'entendre. Petit bout de chou de 2-3 ans. Alors, qu'est-ce que tu veux dire à une petite fille comme ça? Est-ce que tu vas argumenter avec une petite fille comme ça? Non. Tu peux pas argumenter. Mais elle va juste te répéter. S'il faut qu'elle répète 5 fois pour que tu comprennes, elle va te le faire 5 fois. Parce que c'est juste ça qu'elle sait dire. Alors, cette petite fille-là est grande aujourd'hui, là. Elle doit être quarantaine minimum, si c'est pas déjà cinquantaine. Mais c'est son vécu. C'est Sarasvati, la fille de Shamsundar et Malati, qui prêchait durant son enfance comme ça. Alors, des dévots qui sont vraiment into it, ils vont saisir les occasions ou ils vont créer des occasions. Puis ils vont prêcher la conscience de Krishna. Et tout le monde est gagnant à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Juste une petite chose, j'ai remarqué, si on prêche dans la journée Krishna, et le soir, on se rappelle dans notre journée, c'est la seule chose qui nous amène du bonheur quand on pense à l'échange qu'on a eu avec la personne. Toutes les autres choses, ils n'ont pas de valeur. Et ça nous fait comme une paix intérieure, une joie. C'est comme le bonheur, il se trouve dans l'échange qu'on a eu avec quelqu'un d'autre, de parler de Krishna à quelqu'un, de partager ça. Là.
Exactement, tu as tout à fait raison. C'est comme ça aussi pour tout le monde qui veut prêcher, qui est conscient de qu'est-ce qui est la valeur de prêcher, de placer un message conscient de Krishna à quelqu'un d'autre. Ça, c'est comme, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas d'équivalent au niveau matériel. Voilà. OK. Commentaire, question? OK, on va continuer. Alors, la page 40, la ligne 12. Virginie, voudrais-tu lire, s'il te plaît?
Bien sûr. La Bhagavad Gita 2.69 décrit ce que fait un sage introspectif. Et Srila Prabhupada reprend le sujet dans ses enseignements. Ya nisha sarva bhutanam tashyam jagarti samyami yashyam jagrati bhutani shanisha pashyato mune. Ya ce qui Nisha est la nuit, Sarva de tous, Bhutanam les êtres vivants, Tashyam en cela, Jagarti est éveillé, Samyami qui est maître de lui, Yashyam dans quoi, Jagrati sont éveillés, Bhutani tous les êtres, Ça, c'est Nisha la nuit, Pashyata introspectif, Mune pour le sage. Ce qui est la nuit pour tous les êtres et le temps de l'éveil pour l'homme maître de soi. Ce qui est la nuit pour tous les êtres et le temps de l'éveil pour l'homme maître de soi. Et ce qui est pour tous et le temps de l'éveil et la nuit pour le sage introspectif. Teneur et portée. Il y a deux sortes d'hommes intelligents. L'un va se servir de son intelligence sur le plan matériel dans le but de jouir de ses sens, quand l'autre va l'utiliser d'une manière introspective pour s'ouvrir à la réalisation spirituelle. Les actions du sage introspectif, de l'homme réfléchi, sont pour l'homme imprégné de pensées matérielles obscures comme la nuit. Ignorant son identité spirituelle, le matérialiste sommeille dans cette nuit. Le sage réfléchi, au contraire, reste vigilant dans la nuit du matérialisme. Il ressent une joie transcendantale au fur et à mesure qu'il progresse sur le chantier de la réalisation spirituelle, tandis que le matérialiste, endormi, fermé à la réalisation spirituelle, rêve de divers plaisirs sensoriels, éprouvant dans son sommeil tantôt la joie, tantôt la peine. L'homme introspectif est toujours indifférent aux joies et aux peines inhérentes à l'existence en ce monde. Il poursuit son évolution spirituelle sans être troublé par les circonstances matérielles. Et faisant partie de cette introspection, s'avère la maîtrise de la langue. La conscience de Krishna commence avec la langue et se termine avec la langue. L'usage adéquat de la langue dans la conscience de Krishna est d'une importance capitale. Car si la langue est maîtrisée, les autres sens le seront aussi. La langue a deux fonctions. Vibrer les sons et goûter. La langue est le sens le plus vorace et le plus difficile à maîtriser, nous dit Srila Bhaktivinoda Thakur dans sa célèbre prière destinée à être récitée avant d'honorer le prasad, les reliefs de la nourriture offerte à Krishna. La conscience de Krishna commence avec la langue et se termine avec la langue. Une personne consciente de Krishna est toujours en train de servir Krishna, car elle est introspective. Son bonheur est à l'intérieur, à même son introspection. La Bhagavad Gita 5.24 décrit le portrait complet de ce que sous-entend l'introspection. Activité, bonheur, objectif. Elle qualifie de yogi qui la pratique à la perfection. Cette perfection est le propre d'une âme réalisée.
Passe à la traduction. Passe à la traduction.
Celui dont l'activité, le bonheur et l'objectif sont purement intérieurs est un parfait yogi. Il est libéré dans l'absolu et à la fin atteindra l'absolu. Teneur et portée. À moins de savoir goûter le bonheur intérieur, comment peut-on abandonner toute recherche des plaisirs superficiels extérieurs? L'être libéré connaît par expérience le vrai bonheur. Aussi peut-il s'asseoir en silence n'importe où et jouir intérieurement des activités de la vie. Il ne cherche plus les joies matérielles extérieures. On appelle cet état le Brahma-Bhuta. Quiconque l'atteint est assuré de retourner à Dieu en sa demeure éternelle. Que fait le parfait yogi? D'abord et avant tout, il chante les saints noms du Seigneur. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sa méditation est focalisée sur la vibration sonore transcendantale, non différente de l'objet de son adoration. La langue y est pour beaucoup. Y est pour la totale, la conscience de Krishna totale. Cette pratique ne relève pas juste de la théorie, elle relève du vécu même d'un véritable bhakti yogi absorbé de tout son cœur dans la conscience de Krishna.
Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Ce que je remarque le plus important ici, c'est l'intériorisation. Faut prier Krishna, faut chanter Krishna de l'intérieur, vivre avec Krishna au niveau intérieur, dans notre jardin intérieur. De cette façon-là, on peut marcher avec lui dans notre quotidien, même si on est dans le milieu, dans le monde matériel, en fait. On se crée une vie différente qui est intérieure.
Ouais, tout à fait raison. Alors, comme c'est dit ici, à moins de savoir goûter la teneur portée, non? Page 41, ligne 24. À moins de savoir goûter le bonheur intérieur, comment peut-on abandonner toute recherche de plaisir superficiel extérieur? L'être libéré connaît par l'expérience le vrai bonheur. Aussi peut-il s'asseoir en silence n'importe où et jouir intérieurement des activités de la vie. Il ne recherche plus les joies matérielles extérieures. On appelle cet état le Brahma Bhuta. Quiconque l'atteint est assuré de retourner à Dieu en sa demeure éternelle. Mais là, ici, là, il y a un petit piège d'interprétation. Parce qu'ici, c'est dit, aussi peut-il s'asseoir en silence n'importe où et jouir intérieurement des activités de la vie. Alors, une des 26 qualités d'un dévot, c'est quoi? Les 26 qualités d'un dévot. Là, ici, on parle, aussi peut-il s'asseoir en silence n'importe où ou jouer intérieurement des activités de la vie. Alors, une des 26 qualités, c'est que le dévot est silencieux. Alors, est-ce que ça veut dire que le dévot s'assoit quelque part puis ne dit pas un mot?
Peut-être sa bouche ne parle pas, mais son mental, lui, il peut penser.
Oui, il pense à
Krishna,
Il pense à
son
Krishna.
mantra.
Il pense au Mahamantra. Il peut penser à des divertissements de Krishna aussi, comme par exemple les divertissements de Krishna qui sont dans le Srimad Bhagavatam, dans le livre de Krishna que Prabhupada a écrit comme étant un résumé du 10e chant du Srimad Bhagavatam. C'est juste les divertissements de Krishna. Alors, il peut être absorbé dans ces pensées-là. Et comme c'est dit ici, il peut s'asseoir en silence n'importe où et jouir intérieurement des activités de la vie. Alors, c'est pas n'importe qui peut faire ça. Pas n'importe qui. Parce que nous qui sommes au Canada, et d'autres qui ne sont plus au Canada. Mais pour nous qui sommes au Canada, en ce moment même, il fait autour de moins 10, moins 15 dehors. Il neige depuis toute la journée et il va neiger encore demain toute la journée. Alors, pour nous qui sommes si choyés de l'hiver, il n'est pas question d'aller dehors pour méditer. On n'y pense même pas. Alors, ça va se passer à l'intérieur d'une maison où il fait chaud puis que les conditions sont favorables. La même chose, par contre, si c'est accompli en été. En été, il fait beau, il fait chaud et parfois le vent est très agréable parce que une petite brise, ça rafraîchit. En tout cas, des conditions idéales pour être dehors puis méditer si on veut. Et faut faire attention. Parce que quelqu'un peut dire, ah, il fait beau aujourd'hui, puis il est perdu dans le décor. Pense pas nécessairement à Krishna. Parce qu'il pense, qu'est-ce qu'il y a autour? Mettons le vent dans les feuilles des arbres et puis un beau coucher de soleil ou un beau soleil du midi ou il y a tellement de façons de voir des choses dans l'énergie matérielle, mais sans penser à Krishna. Alors, c'est pas n'importe qui, là. Mais là, ici, on parle d'un dévot, d'un pur dévot, puis qui, lui, est situé au niveau spirituel. Et être situé au niveau spirituel, ça s'appelle le Brahma Bhuta. Et si vous voulez les caractéristiques du Brahma Bhuta, il faut aller plus loin dans la Bhagavad Gita, c'est au chapitre 18, verset 54, où Krishna explique « Celui qui a atteint le Brahma Bhuta est une personne qui est toujours joyeuse et qui voit d'un œil égal tous les êtres vivants. » Et Krishna dit « Dans cette condition-là, il peut me servir avec une pure dévotion. » Ah, ça c'est dans Bhagavad Gita. On va le chercher. On va le lire, là. 1854.
Juste un point sur qu'est-ce que vous avez dit de que la personne qui garde le soleil mais on, et la nature, mais on peut voir Krishna, sa création, on peut penser, et tu vois, wow, qu'est-ce qui, c'est incroyable. Krishna, regarde le beau soleil qui fait, veut dire le vent, je le sens, lui, Vayu, tu sais, on peut quand même avoir cet état d'esprit-là, non? C'est pas la même chose? Pensez à Krishna?
Oui, oui, c'est la même chose si on fait le lien avec Krishna. Et en fait, ce qu'on regarde dans le monde matériel, ce que l'on comprend dans le Srimad Bhagavatam, et même la Bhagavad Gita, c'est la forme universelle de Krishna. C'est, l'univers est une forme de Krishna. Cette forme de l'univers, elle vient du corps de Krishna. Évidemment, là, si quelqu'un veut entrer dans le détail, oui, Krishna, disons, arrive, il se multiplie en Mahavishnu, puis deux Mahavishnu, d'innombrables univers sont émanent. Et chaque univers a des systèmes planétaires, puis là-dedans, ben, il y a une planète qu'on appelle la Terre, et qui a une variété incroyable d'espèces de vie et de phénomènes naturels. Alors, oui, c'est pour ça que je dis, quelqu'un qui a atteint, ici on dit, on appelle cet état le Brahma Bhuta. Cette personne-là est située au niveau spirituel, elle va pas oublier Krishna. Mais si on est dans la lune, une expression québécoise, on va voir le décor, on va voir le paysage, mais sans nécessairement penser à Krishna. Alors, dans la Bhagavad Gita, Arjuna demande à Krishna, ben, comment je peux te voir et ne pas t'oublier? Alors, Krishna donne beaucoup, beaucoup de différentes façons de le voir. Alors, comme Krishna dit, je suis l'éclat du soleil et de la lune. Alors, Prabhupada dit, tout le monde voit le soleil, tout le monde voit la lune, mais s'il pense, ah, ça c'est Krishna. À ce moment-là, il concerne Krishna. Et comme Prabhupada donne un autre exemple, Krishna dit, je suis le goût de l'eau. Ah, le goût de l'eau, quand on a soif, c'est l'eau qui va étancher notre soif. Ce ne sera pas une bière ou du vin, là. C'est simplement de l'eau. Et l'eau est appréciée pour sa pureté. L'eau pure, c'est une énergie de Krishna. Alors, quand on boit de l'eau, on devrait, et c'est Prabhupada qui l'explique comme ça aussi, on devrait penser à Krishna quand on boit de l'eau. Et Prabhupada dit, si on pense pas à Krishna quand on boit de l'eau, Prabhupada dit, on n'est pas mieux qu'un animal. Alors, quelqu'un va dire, ben, ouais, c'est un peu raide, mais des fois, c'est ça que ça prend pour faire penser que on peut pas vraiment se permettre d'oublier Krishna et d'oublier que ses énergies, ça émane de lui et que on est tellement dépendant. Alors, notre position, c'est une position de gratitude par rapport à ce que tout ce que Krishna nous donne, puis on apprécie. Alors ça, c'est une autre facette de la conscience de Krishna. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Vous avez dit que l'eau pure, n'importe quoi qui soit dans l'eau, c'est quand même l'énergie de Krishna.
Oui. Prabhupada dit, OK, j'oubliais ça. Prabhupada dit que justement, c'est pas juste l'eau qui peut nous faire penser à Krishna, c'est n'importe quel liquide, Prabhupada dit. Alors, Prabhupada disait, je peux, mettons, entraîner ou montrer à une personne, un ivrogne, que l'alcool ou le vin qu'il prend, c'est Krishna. Parce que justement, sur cette base-là, que tous les liquides, c'est Krishna. C'est de faire le lien, là. Alors, si quelqu'un dit, hey, j'ai Krishna dans mon verre d'eau, ben, c'est oui, dans une façon, mais d'un autre côté, faut savoir que Krishna aussi est à part. Il a sa forme personnelle, sa forme même de Krishna. Alors, ça, c'est quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires?
Dans l'eau pure, ça serait Krishna dans sa vraie forme, et dans d'autres formes, comme vous dites, le vin, on les portait quoi? C'est des expansions, mais c'est pas les expansions qui t'emmènent à voir la clarté de Krishna dans sa réalité, dans sa vraie nature. C'est des expansions de Maya, je sais pas, d'une sorte de choses, mais c'est toujours Krishna. Mais c'est pas la pureté.
C'est ça. C'est ça. Alors, un dévot, lui, il a la fortune, la grande fortune de mener une vie où il suit les principes régulateurs. Ce qui est une, comme dans la Bhagavad Gita, Krishna décrit ça comme des principes de la liberté. Suivre les principes régulateurs. Alors, le dévot a cette grande fortune-là. Parce que, pour un dévot, c'est pas un problème de voir les énergies de Krishna pour ce qu'elles sont et de voir comment utiliser les énergies de Krishna pour le service de Krishna. Alors, pour quelqu'un qui ne suit pas de principes régulateurs, sans critiquer personne, là, c'est pas évident, là. Tu sais, le gars va passer devant le débit de boisson, mettons officiel, là, la Société des alcools du Québec, ou ça a un autre nom dans n'importe quel pays, là. Puis il va penser, hey, ça c'est un problème, là. C'est un problème pour moi parce que moi, je suis habitué à boire. Alors là, il va regarder les bouteilles, puis il va imaginer, ah, oh, celle-là, c'est vraiment bon. Celle-là, c'est pour le temps des fêtes. Ça s'en vient, là. On est rendu là, là. Celle-là, c'est le temps des fêtes. Hey, celle-là, j'en prends jamais de l'année, mais je vais me taper une à un prix exorbitant, puis soi-disant que ça va être vraiment bon. Mais la personne ne suit pas de principe régulateur. Alors pour elle, c'est les objets des sens qui dictent. Il n'y a pas vraiment de contrôle, là. Alors, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'introspection intérieure. L'introspection intérieure fait que tu analyses. Tu regardes et tu analyses. Ça, c'est bon. Ça, c'est favorable. Ça, c'est pas favorable à l'exécution ou la pratique de la conscience de Krishna. C'est pas du pareil au même pour n'importe quoi. Alors...
Mais Maya, t'oublie pas, elle donne des temps.
Ouais, Maya...
T'as mal à la tête.
Ouais, Maya, elle lâche pas d'un pouce. Alors, si tu cèdes à Maya, Maya va te revenir sur le coco avec une des trois formes de souffrance. Des souffrances causées par la nature, par les autres, les ennemis, ou par les fragilités même du corps ou du mental. Alors, il y a combien de gens qui font des choses puis après ils le regrettent? Mais pour un dévot, pas supposé regretter ses actions. Quand ses actions visent à faire plaisir à Krishna dans le service de dévotion, qu'est-ce qu'il y a à regretter? Il n'y a rien à regretter. Ah, c'est pourquoi c'est une vie de bonheur. C'est la conscience de Krishna. Il n'y a rien à regretter. Alors, un problème qu'avait Arjuna, c'était justement de se décider à combattre ou décider à combattre ou ne pas combattre. Mais le dilemme voulait que s'il refuse de combattre, il va être vraiment malheureux. Il était déjà malheureux au départ, puis là, il se dit, non, je ne combattrai pas, mais plus ça va, il n'est pas capable de résoudre le problème. Alors, il s'en est remis à Krishna, il a accepté Krishna comme son maître spirituel, et là, à ce moment-là, tout s'est éclairci, et à la fin, il décide, je vais combattre. Je vais être juste un instrument. C'est ça que tu veux que je sois. C'est ça que je veux être. Et il le fait. Et c'est Arjuna est un exemple idéal de la conscience de Krishna. Alors, il a laissé de côté ses préférences pour l'amour de Krishna. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? OK.
Arjuna a surtout aussi compris le message que Krishna avait à faire passer en fait, parce qu'il a c'est un rôle qu'il joue, puisque c'est aussi avant tout pour nous, l'énoncé de la Bhagavad Gita.
Exactement. C'est tout ça, c'est une mise en scène.
Voilà. Et en fait, lui, il n'avait pas pour lui, mais effectivement, ce trouble. On l'a rencontré, voilà, c'est à se poser des fois des questions, surtout au début, on chemine sur le chemin, c'est ce qui nous fait aussi.
Ouais. C'est une mise en scène orchestrée par Krishna. Et Krishna est mis dans un état, pas Krishna, Arjuna, est mis dans un état de déprime, de lamentation, qui va donner l'occasion à Krishna de prononcer la Bhagavad Gita pour le sortir de cette déprime, état de lamentation. Et comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, ça c'est comme vraiment, tu sais, mettons, vraiment un gros, on peut dire, tu tires la personne de son marasme. Alors Krishna nous dit, sache, Arjuna, tu veux parler comme un grand érudit, mais sache que les sages ne se lamentent ni pour les vivants, ni pour les morts. Alors ça, là, c'est comme genre Arjuna réveille, là, et Krishna, il donne d'un coup sec, il le remet debout, que il peut pas continuer comme avec cette idée que les principes religieux sont supérieurs à la connaissance transcendantale. Alors, comme c'est dit ici, là, on le lit aujourd'hui, le Brahma Bhuta. Le Brahma Bhuta, ça veut dire au niveau spirituel. Alors, soit quelqu'un est là, ou soit quelqu'un n'est pas au Brahma Bhuta. Il y a une différence entre les deux. Et cependant, même si on peut dire, ah ben, soit moi-même, je suis pas rendu là, ou qu'on se permet de juger les autres, puis dire, ah ben, lui n'est pas là, ou elle n'est pas là, peu importe. L'idée, c'est que Srila Prabhupada, il a prêché, il a fait des classes maintes fois sur ce verset-là de la Bhagavad Gita, chapitre 18, verset 54. Prabhupada l'a expliqué de nombreuses fois. Brahma Bhuta, Prasanatma, le niveau spirituel. Alors, c'est Prabhupada, pardon?
C'est toute la Bhagavad Gita, il est là, Prabhupada, c'est tout expliqué, tout ça, dans les autres chapitres. Elle se trouve dans ce chapitre-là, la Bhagavad Gita au complet, le but.
Oui, c'est ça.
De la Bhagavad Gita, de comprendre.
Oui. Alors, c'est
ça a coupé, ça a coupé.
Non. Alors, l'idée, c'est, Prabhupada le prêchait souvent. Il l'aurait pas prêché souvent, aussi souvent, s'il savait d'avance que c'est mission impossible pour ceux qui vont écouter. Au contraire, il l'a prêché souvent pour démontrer, justement, que il y a un niveau spirituel qui transcende le niveau matériel habituel. Et ça, c'est la grâce de Krishna. Et comment on arrive à ce niveau-là? Par le simple chant du Mahamantra. Alors, le chant du Mahamantra donne sa miséricorde en donnant, Krishna donne l'intelligence aux dévots pour s'élever spirituellement parlant. C'est la grâce de Krishna. Alors voilà.
Est-ce que la grâce de Krishna, peux-tu dire, c'est comme sa volonté?
Oui,
la grâce
c'est
de
ça.
Krishna, c'est comme, c'est sa volonté.
C'est sa volonté, mais il faut qu'il y ait une petite part aussi de notre volonté.
C'est ça.
Tu vois, Krishna, lui, a une volonté suprême.
Nos désirs, nous, c'est nos désirs.
Oui, nos désirs, nos... Alors, si on veut être conscient de Krishna, Krishna va nous aider. Il va donner l'intelligence pour être conscient de Krishna. Et si on... Le genre d'aide que Krishna donne, c'est pas une minute ou deux par-ci, par-là. Comme on a dit, le service de dévotion, c'est pour la vie. Alors, de la même façon, l'aide de Krishna ou la grâce de Krishna, c'est pour la vie aussi. Alors, Krishna n'abandonne jamais son dévot, même si le dévot, parfois, peut prendre un chemin oblique. Krishna va s'arranger. Krishna, il sait, là, il y a un dévot qui est en train de dévier, là. Il s'en va pas où ce qu'il devrait aller. Krishna dit qu'il est plus intelligent que le dévot, va ramener le dévot dans le bon chemin. Et ça, Krishna fait ça avec n'importe quel dévot.
Il y avait une histoire comme ça qui disait que Krishna, il avait donné un coup de pied dans le derrière de quelqu'un. Puis l'autre, il dit, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter? Il dit, cette grâce. Que vous lui donnez un coup de pied. Imaginez-vous, là, que Krishna, le Seigneur Tout-Puissant, vous donne un coup de pied dans le derrière. Quelle bénédiction!
Oui.
C'est gros, ça. C'est beaucoup. C'est énorme.
Exactement. Et avec un coup de pied dans le derrière comme ça, tu deviens complètement purifié. Tous tes problèmes sont réglés. Alors, tu te dis, ouais, je vais en prendre un, là. Je me propose. Et ça, la grâce de Krishna est très, très inhabituelle, si Krishna veut. On peut pas cerner. On peut pas limiter les actions de Krishna sur notre vie si Krishna veut nous donner telle forme de miséricorde. C'est Krishna qui décide. Mais Krishna, il regarde justement nos désirs, notre désir d'être conscient de Krishna, puis il est réciproque. Plus on est sincère, Et plus on prend le chemin de la pureté, ben plus Krishna réciproque avec nous. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce que c'est clair?
Juste un dernier. Alors, une des meilleures choses, c'est plus Krishna nous envoie du fumier, mieux que c'est pour nous pour grandir. C'est comme les légumes, tout ça. On donne du bon fumier, ils grandissent super bien. Alors, plus on en a, Krishna s'en donne, c'est une grande miséricorde.
Ouais. Et oui, pour faire pousser des légumes, ça prend l'influence de la lune. La lune, c'est Krishna. Hein? Comme Krishna dit, je suis la lumière de la lune qui donne le sucre.
Le jus.
Le jus aux légumes.
Et aux fruits.
Alors, on peut être mis dans des épreuves, mais il faut être, disons, perméable ou réceptif à la grâce de Krishna. Alors, c'est pour ça un dévot, peu importe qu'est-ce qui arrive, ne se lamente pas. Il va pas se lamenter, il va pas jeter le blâme sur Dieu, la personne suprême.
Et puis aussi dans ce monde matériel, pour un dévot, il y a toujours une fin. Quoi qu'il nous arrive, il y a toujours une solution parce que Krishna nous permettra de comprendre comment sortir d'une situation qui peut-être paraît pas trop au départ, mais on est guidé de l'intérieur pour pouvoir affronter toutes les choses qui nous arrivent aussi.
Exactement. Et ça fait partie justement de la réflexion introspective d'un dévot. Rien n'arrive par hasard.
Rien.
Il y a toujours la grâce de Krishna qui est dans l'arrière-plan. Puis on doit voir comme ça. Et un dévot est toujours heureux, peu importe qu'est-ce qui arrive. C'est ça, Brahma Bhuta, ça veut dire toujours heureux. Alors, la Bhagavad Gita dit Brahma Bhuta Prasanatma, le 1854. Alors, Prasana, ça veut dire le bonheur. Prasanatma, c'est-à-dire quelqu'un est rempli de bonheur. Brahma Bhuta, en étant situé au niveau spirituel, par la grâce de Krishna. OK, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, Hare Krishna, merci beaucoup de venir au cours.
Merci beaucoup. Hare Krishna.
Hare Krishna.
À mercredi prochain.
Oui, à mercredi, toutes les semaines, tous les mercredis. Pas de problème.
Et tu as retrouvé ta voix, donc c'est parfait. Tu as retrouvé ta voix. C'est très bon.
Ouais, la grâce de Krishna.
Exact.
Alors, prochain cours de Ishopanishad, c'est le samedi 20 décembre.
Ouais.
Et puis, l'autre
là,
cours, ou pas des Chamrita, ben, mercredi prochain. Voilà.
Hare Krishna, tout le monde.
Hare Krishna, merci beaucoup. Merci. Hare Krishna, Haribol.
Hare Krishna, Haribol.
Jaya.
Bonne semaine.
Jaya. Haribol. Oups. Non. C'est le 20. Pause recording.
Combien il y a? Juste deux aujourd'hui?
Trois.
Trois?
Ouais.
Michel Prête était là?
Ouais.
Benoît et Virginie?
Ouais.
Toujours ces trois-là sont présents, non?
Ouais. Attends une minute, là.